Tempo classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous, mon invitée de ce soir enseigne la musique au collège de Colombey-les-Belles dans le Saintois et elle s'investit également dans différents projets dont elle va nous parler ce soir. Bonsoir Marie-Hélène François.
Bonsoir.
Quelques mots peut-être sur votre parcours musical avant qu'on attaque les choses sérieuses.
Alors moi j'ai un parcours entre guillemets classique. Moi j'ai été formée conjointement par l'éducation nationale et le conservatoire puisque j'ai suivi les cours dans ce qu'on appelle les horaires aménagés. Mmh. Donc depuis le cours préparatoire, depuis la première année de primaire, j'ai pu donc avoir un enseignement traditionnel comme tous les enfants français, mais aussi en étant au conservatoire l'après-midi. Et j'ai suivi ce parcours jusqu'à la terminale où j'ai passé un bac F11, technicien de la musique.
Vous jouiez de quel instrument ?
J'ai appris le piano.
D'accord.
Voilà.
Et après le bac ?
Et après le bac, et ben, grosse question, et j'ai décidé ben, de voilà, j'ai choisi de... Je me disais, ben, ce qu'on m'a donné gratuitement, je veux à mon tour le donner. Donc j'ai choisi l'enseignement et j'ai continué au conservatoire et à la fac de musicologie, à l'Institut de musicologie qui dépend de la fac de lettres de Nancy. Mmh.
Et là, vous êtes allé jusqu'où ? Jusqu'au CAPES ?
Donc, j'ai passé une licence, puis une maîtrise, puis une préparation en concours pour enseigner, le CAPES. Et une fois mon diplôme obtenu, eh bien, j'ai été, comme toutes les personnes de l'éducation nationale, nommée ailleurs que dans ma région. Mais bon, j'ai découvert une autre belle région, les Ardennes.
Ah oui ?
Voilà, où j'ai travaillé 4 ans.
Et vous êtes revenu après dans la région de Nancéenne ?
Dans le Toulois, voilà, où j'ai travaillé un petit peu dans les collèges de Toul et à Colombey-les-Belles.
Très bien. Eh bien écoutez, avant de faire plus ample connaissance, j'aimerais vous faire écouter ceci.
Thank you.
Voilà, c'était un concerto pour flûte à bec de Georg Philipp Telemann dans l'interprétation de Dorothée Oberlingen et les Bremer Baroque Orchestra. Alors j'ai volontairement choisi la flûte à bec car c'est un instrument emblématique des cours de musique du collège pendant des décennies. Ça a été le moyen à l'époque d'approcher le monde de la musique de manière pas trop coûteuse. Le problème était que les enseignants n'étaient pas forcément formés à la technique de l'instrument ni à la pédagogie. D'où probablement de nombreuses vocations d'instrumentistes qui ont été contrariées, voire réduites à néant. Mais la flûte à bec fut aussi un vecteur pour entrer dans le monde des œuvres musicales. Alors évidemment, aujourd'hui, l'enseignement de la musique en collège a subi une véritable révolution. Qu'est-ce qu'on fait en cours de musique au collège, Marie-Hélène François?
Alors le vrai cliché, effectivement, c'est la flûte à bec. Ah, bah oui. Et c'est encore dans la conscience collective. Et
j'aurais peut-être pas dû, alors.
Et tous les parents de nos élèves arrivent en disant « Ah, la flûte à bec !» Alors moi, je suis très partagée. Moi, je trouve que ça a été très chouette, cet enseignement d'un instrument. Ça permet à tout le monde de travailler un instrument une fois au moins dans leur vie. Et puis, voilà. Maintenant, on n'enseigne plus la flûte à bec depuis à peu près une dizaine d'années. Et je peux même vous dire que dans une classe de musique, normalement dans un collège, on n'a même plus de table.
Oui, c'est ce que j'ai entendu dire aussi.
Voilà, le mobilier.
Il y a des chaises quand même.
Voilà, on est assis quand même. Est quand même beaucoup debout, puisque l'idée, c'est quand même de travailler avec son corps. Notre premier instrument et notre seul instrument... Enfin, c'est presque notre seul instrument, c'est le corps, sur lequel on va pouvoir évidemment vivre la musique, la pratiquer, faire du collectif, la créer aussi. Même si on peut avoir quand même des accessoires, il y a évidemment un piano dans chaque salle de musique, oui. Il y a des percussions, il y a quand même des instruments, il y a de la guitare, etc. Voilà.
Et l'objectif, ça marche comment? Vous avez des séquences, des choses comme ça?
Oui, on prépare nos cours sous forme de séquences, comme dans n'importe quelle autre matière. D'ailleurs, le cours de musique a la même importance que les autres matières, une heure obligatoire par semaine, et puis éventuellement une option qui est le chant choral. Je dis bien option, puisque le chant choral est une option obligatoire à enseigner quand on est formé en tant que professeur de musique. Et normalement, chaque collège doit l'offrir à ses élèves, comme il propose normalement l'option latin ou l'option ce qu'on appelle bilingue. Donc option et pas club.
Oui, voilà. Alors à Colombey-les-Belles, il y a l'option.
Il y a l'option, oui. Et alors quelle est la différence? Par exemple, lorsque les élèves de 3e passent leur brevet, s'ils suivent l'option latin ou l'option chorale, eh bien ils peuvent avoir des points en plus, des bonus en plus lors de leur épreuve du brevet.
Et alors vous avez combien d'élèves?
J'en ai là actuellement au collège 18 classes, 480 élèves.
18 classes, donc ça fait 18 heures de cours.
C'est ça.
Voilà, avec tous les niveaux en fait, de la 6e à la 3e.
De la 6e à la 3e, oui.
Et pour chaque année, il y a des séquences différentes. Vous cherchez quoi dans ces séquences-là?
On essaye de bâtir des différents projets sur différents thèmes, différentes séquences. Et dans chaque séquence, on va animer 50 minutes de cours, en essayant de faire découvrir aux élèves des choses qui leur permettent d'écouter, découvrir un répertoire, d'écouter aussi, découvrir pourquoi pas une forme musicale, de pratiquer, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'on ne découvre pas ça d'une manière théorique, mais on pratique. Et puis, un truc tout bête, tout le monde peut-être a au moins une fois dans sa vie, même si on ne peut pas le nommer, entendu le boléro de Maurice Ravel, donc qui est fabriqué sur un élément répétitif de rythme, un ostinato, joué à la caisse claire. Bon, on peut, si on a envie de travailler sur l'idée d'ostinato, découvrir que si Maurice Ravel l'a rendu si populaire dans son boléro, d'autres avant lui l'ont pratiqué, l'ont utilisé dans la composition, et puis qu'aujourd'hui, le monde du rap ou de la techno ou autre utilise toujours, on parle peut-être plus d'ostinato, mais on va parler de boucles rythmiques ou autres, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que en fait, les matériaux restent les mêmes, mais on va changer un petit peu la moyen de les utiliser.
Et vous mettez l'accent plutôt sur la musique savante ou plutôt sur ce qui se fait actuellement?
Vraiment, l'idée, c'est de dire qu'il y a, un pont. Il y a un pont c'est un enchaînement logique, et il y a fusion, il y a métissage. Et il n'y a pas d'un seul coup une rupture, une musique savante d'un côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Du temps de Jean-Sébastien Bach ou du temps de Mozart ou du temps de Maurice Ravel ou autre, on parlait déjà de musique savante pour certaines musiques. Et aujourd'hui, en fait, dans la tête d'un adolescent, toutes les musiques qui ont plus de 10 ans, c'est des musiques classiques.
D'accord. Ah bah c'est bon à savoir.
Ou des vieilles musiques.
De la vieille musique. Ouais. Bah écoutez, de la vieille musique, on va peut-être en écouter un petit peu avec un compositeur qui est né à Nomni, donc en Meurthe-et-Moselle, Jean-François Tapret. C'était le quartet en si bémol majeur, enfin son Allegro moderato de Jean-François Tapret dans l'interprétation de l'Académie royale de musique de Paris.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors Marie-Hélène, avant de continuer, on va peut-être dire deux, trois mots de Jean-François Tapret parce que c'est quand même pas quelqu'un de très connu dans la région. Enfin, il n'est pas resté longtemps en fait, il est né à Nomni et puis dès l'âge de 12-13 ans, il est parti à Dole, dans le Jura, où il a été organiste sur le grand instrument de Charles Rippe. Et puis ensuite, il est parti à Paris comme premier organiste titulaire de l'École royale militaire, s'il vous plaît. Ensuite de ça, il a continué à monter en grade. Il a été pensionné du roi pendant 13 ans. Donc là, il a eu accès à toute la bourgeoisie, la noblesse parisienne à laquelle il a pu donner des cours de clavecin. Et puis alors, c'est également à cette époque-là qu'arrive le pianoforte. Alors là, il s'est amouraché, enthousiasmé du pianoforte. Il a écrit beaucoup de choses pour cet instrument. Il était très apprécié par ses collègues, qui le qualifiaient de bon compositeur, organiste renommé, excellent pédagogue. Donc quelqu'un qui mérite peut-être qu'on s'intéresse un petit peu plus à lui. Alors, à côté de vos cours de musique au collège, vous travaillez également dans le cadre d'une structure qui s'appelle l'orchestre à l'école. Alors, parlez-nous un peu de cet orchestre à l'école.
Oh, avec grand plaisir. Donc, dans mon collège, cela fait seulement 5 ans que nous sommes associés à l'association Orchestre à l'école. C'est une association qui existe depuis à peu près 25 ans, qui a été créée en 1999 et qui propose, je crois, actuellement en France, à peu près, donc qui soutient 106, à peu près une centaine d'orchestres, on va dire, dans D'accord. toute la France. Mmh. Donc voilà, l'idée, c'est de créer un partenariat, en fait, entre un territoire et puis un établissement scolaire qui peut être une école, une classe primaire, un collège privé ou public, ou pourquoi pas, et même ça se fait aussi parfois dans des lycées. Mmh. Et donc partenariat entre cet établissement scolaire, donc l'éducation nationale, partenariat entre une structure qui propose la musique, ça peut être conservatoire, école de musique, MJC, et puis une collectivité qui va plutôt soutenir financièrement. Pour Colombey, ben, on a un groupement de communes qui nous soutient vraiment, le département aussi nous soutient. Mmh. Et puis, bien sûr, l'éducation nationale, voilà, qui rentre un petit peu dans ce soutien aussi financier. Et lorsque, dans un collège, un orchestre existe, les élèves, sur la base du volontariat, donc forment une classe, où on essaie de grouper dans la même classe des élèves, qui vont s'engager à apprendre, en plus de leurs heures de cours d'une manière traditionnelle, comme tous les autres enfants français, ils apprennent pendant 2 heures un instrument. Une heure, ils ont un cours d'instrument. Et puis, la deuxième heure de la semaine, c'est pour jouer en orchestre.
Alors, ils choisissent eux-mêmes leur instrument ou...
Alors, c'est sûr que pour que ça soit aussi faisable, hein, sur le plan financier et puis aussi pour l'équilibre de l'orchestre, on propose, nous, on a opté un petit peu pour des instruments type fanfare. C'est-à-dire qu'on a trompette, trombone, saxophone et percussion.
D'accord.
Donc, ils avaient le choix. Donc, tous nos élèves... L'année dernière, tous nos élèves de 6e, en fin d'année, on leur a fait découvrir et entendre cet orchestre. Et puis, ils ont eu le choix d'apprendre ou pas de la trompette, du saxophone, du trombone ou de la percussion. Ils sont maintenant, donc l'orchestre actuel a démarré seulement. Et ce sont des petits débutants qui ont fait 6 mois d'instruments, là, depuis leur début de 5e. Et ils s'engagent normalement jusqu'à la fin de leur 3e.
Et alors, ils ont les instruments chez eux, ils ont les parents qui les poussent à travailler?
Alors, ils peuvent, s'ils le souhaitent, ramener leurs instruments chez eux. C'est sûr que le tromboniste, il a plus de mal parfois, parce que moi, j'enseigne en milieu rural, transport scolaire, bus.
Oui.
Trombone, c'est lourd. Voilà. Donc, ils peuvent ramener chez eux leur trombone, toutes les semaines ou tous les soirs, s'ils le veulent, ou éventuellement en vacances scolaires. Et après, comme dans chaque cas, il y a des enfants qui travaillent beaucoup, d'autres qui travaillent un peu moins. On a un petit peu tous les cas, bien sûr.
Et ils sont combien alors ?
Alors là, j'ai dans le nouvel orchestre, parce qu'en fait, on vient de quitter une promotion là, qui est maintenant en seconde. Tous nos élèves qui ont fait 4 ans d'orchestre l'année dernière nous ont quittés pour aller à la fin de leur 3e dans les lycées, hein, du Toulouse de Nancy. Là, cette année, ils sont 26 à avoir intégré ce nouvel orchestre.
Et dans l'ancien orchestre, il y en a dont on sait s'ils continuent à pratiquer ?
Oui, ça m'a fait bien plaisir. Dans l'ancien orchestre, j'ai 3 élèves qui ont opté pour l'option musique à Chopin.
Ouais.
Et un élève qui se destine au métier de technicien du son, je pense, et voilà, qui est au lycée Donneau.
Et les autres continuent dans les écoles de musique du coin ?
Alors, pas forcément, mais ce n'est pas non plus le but. Hein. Le but cette structure orchestre à l'école, ce n'est pas forcément de faire de chaque enfant un futur musicien ou un futur pratiquant. Mais en tout cas, le témoignage qu'ils ont pu faire, et eux-mêmes et leurs parents, c'est qu'au sein de l'orchestre, ils ont appris des valeurs, des notions qu'ils vont pouvoir vraiment développer plus tard, comme la coopération, le respect de l'équipe, le respect de l'effort, le goût de l'effort, puis aussi le bonheur, sans doute, d'avoir fait quelque chose ensemble. Moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans ces classes. L'année dernière, c'était déjà ça avec le précédent orchestre. On a la chance maintenant, dans beaucoup de collèges de France, d'avoir des structures d'intégration d'enfants handicapés.
Mmh.
Et puis aussi, dans chacune de nos classes, d'avoir des enfants porteurs de handicap, hein, ce qu'on n'avait pas il y a une dizaine d'années. Donc, l'année dernière, comme dans ce nouvel orchestre de 5e, j'ai des enfants qui sont autistes.
Mmh.
J'ai des enfants qui, justement, quand il faut prendre la parole, ne prennent pas la parole. Ils étaient en boule, hein, un enfant petit, je me souviens, qui ne voulait absolument pas participer, pour qui c'était très dur le regard des autres, et qui a joué l'année dernière, là, en fin de troisième, à l'autre canal, en concert, avec sa trompette, et qui était vraiment très épanoui. Voilà. Puis on a une structure qu'on appelle ULIS, d'intégration d'enfants en situation de handicap, là, beaucoup plus lourd. Et dans cet orchestre, il y a également des enfants de ce dispositif ULIS. Donc... Je trouve que c'est la musique a ceci de merveilleux, c'est un merveilleux vecteur vers les gens, quelle que soit leur formation, quelle que soit leur chance. On peut être très bon élève, avoir de très bonnes notes, et au contraire être un élève en difficulté scolaire et pouvoir sans problème jouer dans le même orchestre et avancer et être fier, je pense, de ce qu'on peut faire tous ensemble. On a tous besoin les uns des autres.
Vous pensez que ça devrait être obligatoire ?
Non.
Non.
Non, mais que je travaillerai plutôt dans l'autre sens. Je pense que tout enfant qui aurait envie de jouer dans un orchestre devrait pouvoir le faire. Voilà. Dans ce sens-là, l'obligation D'accord. devrait être là. On ne peut pas forcer parce que le sport, c'est aussi magnifique.
Oui, oui, non, mais...
Donc, il ne faut pas forcer un élève. Par contre, l'expérience que je peux avoir, c'est qu'il y a des enfants qui n'auraient jamais imaginé jouer d'un instrument et qui, d'un seul coup, vont dire en écoutant, en regardant leurs copains, mais et pourquoi pas moi ? Voilà.
Et vous savez s'ils écoutent de la musique ?
Ah, bien sûr.
Musique savante, hein, je parle.
Ah, bien sûr, oui, ils écoutent de la musique. Parfois, ils sont surpris. Alors, malheureusement, depuis 3-4 ans, là, avec les réseaux sociaux, avec le fait que les enfants regardent de moins en moins la télé, ça, je suis navrée de ça. Parce qu'avant, les publicités utilisaient beaucoup de grands tubes classiques. Et un enfant, en fait, le Boléro de Ravel, les Quatre saisons de Vivaldi, certaines symphonies de Beethoven, ou l'air de la Reine de la Nuit de Mozart ou d'autres, hein, voilà, ils avaient tous déjà entendu ça, simplement grâce aux publicités. Et du coup, en fait, on aime ce qu'on connaît.
Oui.
On aime ce qu'on connaît, voilà.
Et quel répertoire vous leur faites travailler ? Vous faites des arrangements ? Comment ça se passe ?
Oui, alors l'association Orchestre à l'école, qui nous soutient beaucoup, nous propose des arrangements, paye parfois aussi des jeunes compositeurs pour arranger pour l'orchestre, hein, que ça soit vraiment complètement adapté au niveau et aux instruments pratiqués. Et puis, on reprend des grands classiques. Alors là, la formation, qui est plutôt une petite formation de fanfare, avec des cuivres percussions, là on est en train de travailler Owen Vessens, ou alors des petites choses comme ça, des petits rocks, des petites choses qui sont écrites pour eux. Mais l'année dernière, il y a 2 ans, on avait intégré, on avait accueilli dans notre collège des enfants ukrainiens, des jeunes filles qui avaient fui la guerre, et pour eux on avait joué l'hymne de l'Ukraine, on a aussi joué l'hymne européen. Voilà, donc tout est ouvert, parce que même en formation de fanfare, avec des cuivres, on peut jouer aussi des grands thèmes classiques.
Qui vient faire les cours, alors, d'instruments ?
Alors, on est jumelé avec... on a un partenariat avec l'école de musique d'Arouet, qui nous envoie leur professeur. Donc, on a un professeur de saxophone, de trombone, de trompette, de percussion, qui vient de l'école d'Arouet. Et puis moi, en tant que professeure de musique du collège, je co-anime, je suis là en cours. Alors grâce à cet orchestre, j'ai appris à jouer de la trompette. Je ne pensais jamais. Enfin, j'apprends parce que ça fait 6 mois. Et l'année dernière, et pendant ces 4 dernières années, j'ai appris à jouer du saxophone.
Oh bah c'est formidable.
Moi, la pianiste qui ne pensait jamais me remettre à un autre instrument. Voilà, j'ai grâce aux enfants. Et c'est beau et formateur, je trouve, pour moi en tant qu'enseignante. Et je pense que ça parle aussi aux enfants. Parce que moi, en tant que débutante au saxophone, ou là récemment en tant que débutante à la trompette, je me retrouve dans une position d'élève où je me trompe, je suis découragée parfois, je rate, je n'y arrive pas, et c'est beau. Et à côté de moi, j'ai un gamin qui a exactement les mêmes problèmes que moi et qui me regarde en tant que prof, qui va me retrouver quelques heures après ou le lendemain en tant que prof de musique. Et ça se passe vraiment très très bien.
On va peut-être écouter un petit peu de musique. Alors là, ce sont des jeunes qui ont un peu plus de 6 mois d'expérience. C'est l'Orchestre Symphonique Simon Bolivar avec Gustavo Dudamel.
Oh bah oui. Thank you.
Voilà, c'était un peu ce que peut donner l'orchestre à l'école avec quelques années d'expérience. C'était l'orchestre symphonique Simon Bolivar, donc du Venezuela, dirigé par Gustavo Dudamel, dans une pièce d'Oscar Lorenzo Fernandez qui est Batucué. Je ne sais pas si on prononce comme ça, Marie-Hélène, vous n'êtes pas...
Aucune idée.
Aucune idée non plus.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Bien. Alors, mon invité, Marie-Hélène François, donc vous êtes également beaucoup investie dans le domaine du chant choral. Et on s'est déjà pas mal croisés, notamment lors du Festival international de chant choral Nancy Voix du Monde. Et vous avez longtemps dirigé un chœur sur Nancy, maintenant vous êtes à la tête d'un nouveau chœur. Alors parlez-nous de cette expérience dans l'univers du chant choral qui est relativement bien développée sur Nancy.
Oui. Alors, comme tout élève inscrit au conservatoire, enfant, j'ai participé, c'était dans notre cursus de formation à la chorale du conservatoire. Mmh. Et puis ensuite, en institut de musicologie, on continue un petit peu à chanter en chœur. Et puis, on commence à nous donner quelques rudiments de direction de chœur.
Oui.
Je dis bien rudiments parce que quand on est beaucoup d'étudiants sur 4 années, voilà, c'est vraiment des rudiments. Mais ma première vraie expérience de direction, je m'en souviendrai vraiment très bien, c'était à Aviotte, dans une jolie petite basilique dans la Meuse.
Normesien, oui.
Voilà, où j'ai dirigé une petite pièce de Penderecki.
Oui.
Avec le chœur de l'Institut de musicologie, mais c'était dans nos études. Moi, jamais j'aurais pensé, sauf en me destinant à être professeur de musique et de chant choral en collège. Je savais que j'allais diriger un chœur d'enfants, mais jamais je pensais être chef de chœur. Ça m'était jamais venu en tête jusqu'à ce que je regagne à Nancy et les environs. Et puis, à un moment donné, alors j'ai chanté aussi dans une belle structure sur Nancy qui est Gradus Ad Musicam, qui m'a aussi bien formée en tant que choriste. Mais en commençant à enseigner à nouveau sur Nancy, j'ai eu à un moment donné l'envie d'intégrer à nouveau un chœur, une chorale, mais vraiment sans prétention, juste pour me faire plaisir. Puis aussi avec cette idée que en fait, la musique quand même que mes adolescents d'élèves écoutaient et celle que j'avais eue moi au conservatoire ou que je pratiquais dans différents chœurs, c'était quand même pas la même. Donc j'avais besoin d'une petite pause, de ne pas me prendre la tête, de chanter autrement, d'autres répertoires que je connaissais beaucoup moins. Et donc je suis rentrée vraiment par hasard, parce qu'une amie, collègue, prof de français m'a poussée. Je suis rentrée dans une petite chorale de l'Axou pour chanter.
D'accord.
Simplement, par facilité.
C'était quelle chorale ?
Par plaisir, chœur swing.
Ah, c'était chœur swing, d'accord.
C'était chœur swing. Et puis il se trouvait que 6 mois après ou 9 mois après mon entrée dans cette chorale, il y a eu un petit problème ou quelque chose. La chef de chœur qui avait pris un engagement pour un concert dans les Vosges ne pouvait pas venir, ne pouvait pas diriger. Et j'étais vendue par mon amie, la prof de français qui était rentrée avec moi et qui a dit aux autres, mais elle est prof de musique. Voilà. Donc, quand on m'a proposé de diriger pour le concert, j'ai quand même dit que je n'avais jamais dirigé d'adulte, pas de 4 voix, je ne dirigeais pas un chœur à 4 voix. Et que du coup, il fallait quand même que je fasse quelques répétitions. Et puis moi, je pensais juste dépanner, c'était en fin d'année scolaire, dépanner pour ce concert. J'ai fait quelques répétitions, puis basta. Et puis comme ça, de fil en aiguille, on m'a proposé de co-diriger ce chœur. Et puis je suis restée 22 ans à diriger donc, la chorale Chœur Swing avec beaucoup de bonheur. D'abord en co-direction, puis après toute seule.
Il y avait combien de chanteurs ?
Eh bien à la fin, lorsque je suis partie il y a 2 ans, il y a 70 choristes là actuellement.
Ah oui.
70 choristes, oui.
Et oui, il y a suffisamment d'hommes ?
Oui. C'est assez curieux, mais oui, c'est une association, un chœur très dynamique, avec pas mal d'hommes. Je crois qu'il y avait 8 basses et 6 ténors. Enfin, ça,
bah oui.
L'équilibre était tout à fait bon, oui.
Alors, qu'est-ce qui a pris votre succession ?
Alors, il y a eu deux collègues profs de musique, Violaine Klein et puis maintenant Karine Marshall. Voilà.
D'accord. Qu'on a reçu ici.
Ah ben voilà.
Il y a quelques temps déjà.
Parfait.
Ah oui. Et puis donc maintenant, nouvelle expérience ?
Eh ben nouvelle expérience, un peu comme pour Chœur Swing. J'avais dit dans ma tête, c'était clair, je ne redirigerai plus. Enfin, c'est fini quoi. C'est fini pour passer à autre chose. Puis aussi parce que j'ai des problèmes de santé, tout simplement. Voilà.
D'accord.
Et pour mon année de pause là, de chœur swing, on m'a sans cesse sollicité une chorale amie qui a... Alors c'est un chœur qui a une belle spécificité. Je crois que c'est ça qui m'a touchée, qui m'a poussée à dire oui. Il s'agit de la chorale Tutti Quanti, une chorale de Nancy qui a été fondée il y a plus de 15 ans maintenant. dont la spécificité, c'est de réunir par le chant choral des personnes valides et non valides.
Mmh.
C'est-à-dire qu'il y a à peu près 2/3 de personnes valides et 1/3 de personnes qui sont en situation de handicap. Alors, il y a des malvoyants, des aveugles, et puis des gens en fauteuil roulant, lourdement handicapés, ou quelques personnes qui ont un handicap moins visible, mais un vrai handicap physique quand même, mais qui ne les empêche pas de chanter avec plaisir avec les autres. Voilà.
Alors le répertoire ?
Alors le répertoire, il est très ouvert, donc c'est quand même des œuvres classiques, des œuvres des chants du monde, quelques négro spirituels ou gospel, de la musique plus contemporaine, contemporaine entre guillemets, donc la chanson Ferra, Brel ou autre. Voilà, mais on chante aussi avec grand bonheur. Là, cette année, je monte un chant de Romain Didier,
oui,
qui est un artiste que j'apprécie beaucoup, qu'on a découvert aussi sur Nancy. Voilà.
Oui. Dans le cadre du Festival de chant choral, il est venu faire des choses assez extraordinaires.
On a eu un beau partenariat avec lui, oui. Ouais, c'était magnifique. Une belle création pour notre région Lorraine et pour le Festival international de chant choral. Création dans laquelle mes élèves de collège ont eu la chance de pouvoir participer. Oui.
Oui. J'ai eu la chance de participer aussi, moi.
Mais oui, tout à fait.
Donc, il y a combien de chanteurs aussi alors, dans ce nouveau groupe ?
Alors là, c'est une structure plus petite. Hein, c'est une 30aine de choristes. On répète à l'IRR, l'Institut de rééducation et de réadaptation, qui s'appelle aussi Pierre Quint, qui est à côté de Florentin, hein, donc boulevard Lobo à Nancy.
Oui. Mmh.
Et puis parfois, je monte aussi à l'ALAG. L'ALAG, c'est un lieu de vie des personnes en situation de handicap, puisque tout est compliqué quand on est en situation de handicap, le transport aussi.
Ouais,
hein.
Et
par exemple, pour répéter, on répète chaque semaine le mercredi soir à 20h, donc boulevard Lobo à l'IRR, mais bien les personnes sont obligées de réserver
des transports,
ouais, des transports qui en ce moment ne fonctionnent pas toujours très bien parce qu'il manque de chauffeurs, parce que parfois les circuits, pour faire simplement quelques kilomètres sur Nancy, il y a tout un circuit, on va chercher un tel à tel endroit, à tel endroit. Et il nous est déjà arrivé d'avoir un choriste qui quittait la répétition à 22h, mais qui, en utilisant ce transport, ne rentrait chez lui que vers 23h parce qu'il y avait tout un circuit de ramassage.
Ouais. Voilà. Bien, on écoute un petit peu de musique encore. Je vous laisse deviner. Alors les choristes et les amateurs de chant choral auront reconnu cette pièce célébrissime de John Rutter, For the Beauty of the Earth. Mais j'ai choisi cette version parce que, en fait, dans les concerts dans lesquels on entend cette pièce-là, c'est souvent la version avec accompagnement de piano, hein, Marie-Hélène.
Oui, moi je connaissais cette version-là, oui.
Voilà, alors je suis tombé sur celle-là avec l'Orchestre Symphonique de la Ville de Londres, les Cambridge Singers et John Rutter à la baguette. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire partager à tout le monde.
Pas mal.
Voilà, alors ben, on arrive à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire d'autre?
D'autre, ben, pour conclure, j'aurais envie de dire que la musique, c'est quand même quelque chose de fabuleux. C'est un super vecteur et c'est un super moyen de relier les gens entre eux, quel que soit l'âge, en fait, qu'on soit enfant en école, en collège, qu'on soit adulte, qu'on soit plus âgé, même dans les maisons de retraite. Hein, je pense à tout ce qui se passe de beau aussi avec les personnes âgées dans les EHPAD actuellement. Je pense aussi à quelque chose de très personnel où ma maman avait la maladie d'Alzheimer et où la musique pouvait la toucher. Elle est morte à côté de moi avec le concerto Les Quatre Saisons.
D'accord.
Jusqu'au bout, j'ai mis le printemps et voilà, c'était quelque chose de beau à vivre, hein, ce départ tout doucement avec Vivaldi. Mais oui, la musique, c'est un fabuleux moyen de réunir des gens. Je pense aussi à une belle expérience, encore quelque chose de très, très beau, très fort que j'avais vécu avec l'association ATD Quart Monde, où pendant longtemps j'ai pu faire de la musique avec des gens qui parfois étaient à la rue ou dans des foyers, notamment je pense à des hommes voilà, qui étaient vraiment très fort marqués dans leur corps par la misère hein, et qui tout doucement, en chantant régulièrement à la maison Quart Monde, réussissaient à se redresser un peu puis à prendre. Je crois un petit peu de fierté et retrouver qu'ils étaient aussi très dignes. Et si j'ai choisi ce beau métier de musicienne pédagogue, hein, j'ose un petit peu, mais avec modestie, hein, je sais que je ne suis pas tout à fait toujours à la hauteur et tout le temps, mais j'essaye en tout cas. C'est parce que je pense sincèrement que quel que soit son âge, son rang social, quel que soit... Voilà, sa religion, c'est important aujourd'hui aussi de parler de toutes ces différences. Hein. On a quelque chose de fort en nous, on peut vivre aussi, on n'a pas seulement de besoin de nourriture, mais aussi d'une nourriture artistique, et que la musique, ça peut nous permettre de créer des liens entre nous, qu'on soit en situation de handicap ou pas, qu'on soit pauvre ou riche. Et je pense aussi à des belles expériences qu'on a entendues hein, parfois, où des orchestres, notamment ben, dans ce pauvre Moyen-Orient, des orchestres pouvaient réunir des musiciens juifs et palestiniens arabes. Hein, et oui, mais bien sûr, si on faisait un petit peu plus de place à la musique, peut-être que le monde serait plus beau. C'est ce que je peux faire comme un petit colibri, j'essaie de faire ça en tout cas.
Très bien. Merci Marie-Hélène de votre présence parmi nous ce soir. Alors je rappelle quand même qu'avec votre chœur Tutti Quanti, vous produisez Salle Chepfer à Nancy donc le vendredi 12 avril à 20h avec la participation de mes amis de l'ensemble 3 voix et un piano.
Oui.
Voilà, merci Marie-Hélène, bonne semaine à l'écoute des programmes de RCN. Merci à Pierre pour la technique et à la semaine prochaine.